Merci Marie, à demain.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver dans la compagnie des auteurs. Aujourd'hui, deuxième volet de notre série consacrée au dramaturge norvégien Henrik Ibsen. Celui qui veut me comprendre, écrivait Ibsen à l'un de ses amis étrangers, celui-là doit vraiment connaître la Norvège, la nature grandiose mais austère qui entoure les hommes, là-haut dans le nord, la vie solitaire, retirée, les fermes à des kilomètres les unes des autres, ce qui contraint à se replier sur soi-même. C'est pourquoi les gens y sont introvertis et graves, et souvent perdent courage, oh comme ils aspirent au soleil. Quand Ibsen écrivait ces lignes, peut-être avait-il en tête son enfance passée dans une maison de campagne reculée où sa famille avait été contrainte de se replier après la faillite du père. Une maison qui serait, vue de chez nous, un vrai cliché de Norvège, en pleine nature, en plein hiver et en plein brouillard, mais aussi tout près des fjords auxquels on pense invariablement quand on imagine ce pays. Mais Ibsen a mal vécu ces années isolées avec un père alcoolique et une mère devenue soudainement bigote. Et il a choisi de fuir dès qu'il a pu vers Christiania, puis encore plus loin, hors de cette Norvège qu'il jugeait coupable de ne pas avoir reconnu son talent. Quel est donc le rapport d'Ibsen avec ce Nord dont il est à la fois le fils et l'un des étendards, lui qui a vécu 27 années en exil? C'est ce dont nous parlons aujourd'hui avec Frédéric Toudoir sur la pierre, auteur de différents essais parmi lesquels L'imaginaire nordique, publié en 2005 aux éditions L'Improviste. Avec elle, nous allons observer les âmes scandinaves, toujours masquées, ce qui fait pour nous, disait Régis Boyer, leur irritante fascination.
Viens donc, Thorvald. Viens voir ce que j'ai acheté.
Ne vous dérange pas. Acheter, dis-tu. Oh. Tout ça. Lina, t'étais encore à l'été pour ce voyage.
Mais oui, Thorvald. Cette année, nous pourrons bien nous le permettre un peu. C'est le premier Noël où nous n'avons pas besoin d'économiser.
Tu sais bien qu'on ne peut pas gaspiller.
Si, Thorvald, nous pouvons bien gaspiller un peu, n'est-ce pas? Avec un tout petit peu maintenant que tu vas toucher un gros salaire et gagner beaucoup, beaucoup d'argent.
À partir du nouvel an, oui. Mais il s'écoulera tout un trimestre avant que le salaire tombe.
Bah, nous pouvons toujours emprunter en attendant.
Laura.
Bonjour Frédéric Toudoir sur la pierre.
Bonjour.
On vient d'entendre un extrait d'une maison de poupées mis en scène par Stefan Braunschweig que nous recevons jeudi prochain. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'essence nordique ou scandinave d'Ibsen. Et si nous cherchons à le faire, c'est parce qu'il est considéré, avec Strindberg, comme le grand auteur scandinave, celui qui porte la culture nordique. Est-ce que vous diriez également, vous, que c'est le grand auteur scandinave?
Je dirais que c'est un des grands auteurs scandinaves. Il me semble qu'on pense aussi quand même à Knut Hamsun ou à Selma Lagerlöf. Il n'y a pas que Ibsen, ce serait vraiment faire injure aux autres écrivains. Justement, la littérature nordique est une grande littérature, même on peut partir des sagas islandaises, enfin il me semble que ce n'est pas un hasard, mais c'est vrai quand même que du point de vue théâtral, il est clair que Ibsen et Strindberg aussi, mais peut-être différemment, d'ailleurs ce serait intéressant de voir leur différence. Ibsen a marqué quelque chose d'un renouveau théâtral et quand même a marqué peut-être aussi on pourrait dire une sorte de tournant dans le théâtre européen. Pas simplement donc en Scandinavie, mais me semble-t-il dans toute l'Europe.
Est-ce qu'aujourd'hui, en Norvège et en Scandinavie, il est considéré parmi les jeunes générations en particulier comme une référence?
Oui, il reste une référence. Et c'est vrai que en Scandinavie, il reste une référence. Et si on demande, par exemple, aux jeunes dramaturges, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais contemporains norvégiens, c'est vrai que Ibsen reste quand même une marque. Fait partie du patrimoine littéraire. Et il me semble que, voilà, des auteurs comme Peter Roslund, qui est un dramaturge norvégien contemporain, justement, qui met en scène une pièce. Et justement, il y a un personnage qui s'appelle Henrik. Voilà, il me semble que c'était pas complètement... qui s'appelle Un garçon impossible, hein, une pièce contemporaine récente. Il me semble que quand même l'hérédité d'Ibsen se fait entendre chez ce dramaturge, par exemple.
Et est-ce que vous pensez que quand on est norvégien et qu'on regarde une pièce d'Ibsen, on la regarde très différemment de la façon dont nous, les Français, par exemple, on va la regarder?
Ah oui, ça me semble vraiment évident. Et d'ailleurs, la remarque qu'Ibsen fait dans la correspondance que vous avez lue au début me paraît liée. On ne peut pas me comprendre si on ne sait pas. Et il parle évidemment de la Norvège, mais du plus âpre de la Norvège, c'est-à-dire la nature norvégienne dans ce qu'elle a de plus rude, pour nous, de plus spectaculaire. Et il me semble, quand il me dit on ne peut pas comprendre, moi, il me semble justement que peut-être ce qui a plu chez en Europe et ce qui a fait la fortune d'Ibsen en Europe, c'est précisément que les spectateurs européens, donc je pense la France, l'Allemagne en fait, hein, qui sont Berlin, Paris, sont vraiment les scènes qui ont accueilli le théâtre d'Ibsen dans les années 1890, ont été fascinés, mais justement par une étrangeté qui probablement ne comprenaient pas, non sans leur faire injure, mais ils ont été émus, ils ont été séduits, ils ont été dérangés, mais je ne crois pas qu'ils aient compris ce qu'Ibsen décrit, et qui pour moi en revanche résonne comme l'âme nordique, parce qu'en même temps ce que décrit Ibsen, c'est précisément ce qui fait le fondement de son théâtre. Mais ce qui me paraît intéressant et étonnant, c'est que si on réfléchit, en fait les premières pièces que la scène européenne va connaître sont Les Revenants. Alors, par exemple en France, ce sont Les Revenants, c'est la première pièce que Paris va connaître, et Une maison de poupées, qui ne sont pas les plus folkloriques ou les plus... la question de la nature n'y est pas déterminante, me semble-t-il, et ça renvoie plus à une sorte de scène bourgeoise, ou enfin qui décrirait pour le spectateur européen une
plus
scène
universelle d'une certaine
façon. Voilà, et qui renvoie à des codes que les spectateurs européens de cette fin 19e siècle comprennent et ressentent. En fait, une scène bourgeoise avec, on a entendu le début d'Une maison de poupée, avec voilà cette jeune femme qui s'active la veille de Noël, qui est toute fière, enfin bon, un petit peu puérie, faut quand même le dire, mais qui s'active autour des préparatifs de Noël, et qui, me semble-t-il, pourquoi ça plaît aux spectateurs européens, parce qu'ils s'y reconnaissent totalement. Donc ce qui est intéressant, c'est cette ambivalence profonde, je trouve. C'est-à-dire que dans le fond, ce qui fait l'essence même du théâtre, en tout cas d'Ibsen, c'est probablement ce que nous, Européens, ou spectateurs européens, ou en tout cas qui ne sommes pas scandinaves, avons compris le moins vite, ou avons cerné le moins vite, me semble-t-il.
Alors justement, on va essayer de découvrir un petit peu plus de quoi il s'agit, et peut-être faut-il commencer par définir cette notion de scandinavité, je ne sais pas, est-ce qu'on peut employer ce mot-là?
Oui, c'est un terme. Alors moi, c'est vrai que j'avais, quand j'ai écrit cette thèse, j'avais très envie qu'il y ait... j'avais envie d'essayer de comprendre ce mystère de l'âme nordique, c'est-à-dire ce qui fait quand même qu'il semble quand même qu'il y a une spécificité qui nous fascine, mais qu'on a du mal à cerner. Alors, on cherche différents termes. J'ai appelé mon essai, enfin l'essai qui est tiré de ma thèse, l'imaginaire nordique, pour prendre, qui comprend donc à la fois la Scandinavie, donc plus la Finlande si on est strict, et puis aussi qui renvoie à l'idée que dans le fond, c'est vraiment un imaginaire du Nord qui les caractérise. Et donc, je voulais ne pas me contenter de la simple Scandinavie qui dit que... Là, il me semble que la Scandinavie ou la Scandinavité, là, est-ce qu'on peut appeler la Scandinavité, alors, ce serait, disons, un des éléments du Nord. Mais moi, me semble-t-il, ce qui fait que l'Europe a tellement aimé et aime tellement comme ça le théâtre scandinave, c'est précisément parce que c'est le nord de l'Europe. Enfin, c'est-à-dire que dans le fond,
c'est quand même l'Europe, même si c'est son nord.
Bien sûr, et c'est exactement ça que le spectateur européen vient chercher, c'est la limite nord de l'Europe. Et dans le fond, il vient tester. Et c'est pour ça que ce qui nous fascine en deuxième temps, ce sont les brumes, les glaces, la neige, les fjords, c'est-à-dire là où la nature arrête l'homme. C'est-à-dire que c'est un endroit où la nature est profondément hostile à l'homme. et où la nature, me semble-t-il, arrête l'homme. Et donc, c'est la limite nord de l'Europe. Et il me semble que la scandinavité, enfin, ce que j'ai essayé d'appeler l'âme nordique ou l'âme scandinave, renvoie à cette idée-là. Alors, elle comporte plein d'autres caractéristiques, mais d'abord celle-là.
Et cette scandinavité, vous l'appelez parfois le boréalisme, oui. En référence à ce que Edward Said appelait l'orientalisme.
Oui, c'est vrai que, alors, scandinavité, ça renvoie aussi effectivement à le fait que la Norvège, la Suède, l'Islande, le Danemark forment les pays scandinaves et qui forment une unité, hein, alors une unité plurielle, on pourrait dire d'une certaine manière. Et d'ailleurs, En fin du 19e siècle, dans les années 1860, il y a eu un mouvement qu'on a appelé le pan-scandinavisme, qui voulait comme ça réunir ces pays ensemble, mais d'une manière politique. Et c'est pour ça que pan-scandinavisme qui n'a pas fonctionné, puisque dès qu'il y a eu la guerre des Duchés en 1864, la guerre du Danemark contre la Prusse, finalement on s'est rendu compte que l'Union n'existait pas. Mais en revanche, ce que ça indique, c'est qu'il y a une notion politique. Et ce que je trouve intéressant, effectivement, dans la notion de... Alors, ce qu'on va appeler la scandinavité ou la nordicité ou le boréalisme, c'est qu'elle contient une notion politique. Et je pense que c'est ce qui est précisément actif encore aujourd'hui et qui me semble être vraiment l'exact symétrique de ce que Edward Said a appelé l'orientalisme. C'est-à-dire, l'orientalisme, c'est la façon dont finalement les Occidentaux, les Européens, ont construit une limite sud de l'Europe. C'est ce qu'ils ont fait de l'Orient, on le sait.
Mais en le rejetant de l'Europe quand même.
Oui, mais c'est la limite extérieure, me semble-t-il. C'est-à-dire que c'est la limite du sud et c'est la façon dont l'Occident, manipule, on peut le dire, en tout cas par les images et par les représentations, le Sud. Et il me semble qu'on peut concevoir, enfin c'est intéressant en tout cas, il y a des différences, parce que c'est pas l'exact symétrique géographique, bien sûr, mais il y a des différences, mais c'est intéressant de le penser, ce concept d'orientalisme. Donc du coup, le boréalisme semble faire écho géographiquement et puis même phonétiquement avec ce terme de boréalisme, mais qui dit aussi qu'il y a des enjeux politiques et idéologiques dont nous-mêmes n'avons pas conscience. Donc il y a des enjeux politiques et économiques dans la façon dont on se représente le Nord. Et quand on se représente le Nord comme un pays brumeux, les fjords, les rondins, les bois, il me semble qu'il y a une part d'idéologie inconsciente, mais dans cette représentation.
Parce que dans l'idée d'orientalisme, il y a à la fois l'exotisme, oui, et puis il y a la domination. Est-ce que là aussi, vous retrouvez un petit peu ces deux notions-là ?
Alors, il me semble que là, il y a... Alors, l'exotisme fonctionne. Alors, c'est un exotisme du froid, pour le caractériser un peu schématiquement, mais il me semble qu'il fonctionne. C'est-à-dire que c'est une différence, mais c'est un principe de différence, c'est une différence dont qu'on peut percevoir. Il suffit d'aller nous-mêmes dans le Jura ou dans les Vosges, en plein hiver, on va comprendre ce froid, on peut en percevoir la signification. En revanche, me semble-t-il, en termes de domination, moi l'impression que j'ai, c'est que dans le fond, la Scandinavie ou les pays nordiques ont rejoué entre eux ces jeux de domination. Et du coup, il me semble que c'est moins la domination de l'Europe par rapport à la Scandinavie ou réciproquement qui se joue qu'une sorte de domination intra-scandinave qui opère.
Donc la Scandinavie n'est pas un ensemble forcément cohérent, il y a des jeux de domination, Frédéric Tudor sur la pierre, entre eux. Ibsen s'est d'ailleurs fait l'écho d'un certain malaise dans certaines de ses pièces, dans Brandt 1866, dans Peer Gynt 1867, mais pourtant il y a quand même une âme scandinave, et cette âme, on va voir avec vous si on la retrouve chez Ibsen. Qu'est-ce que ce serait, Frédéric Tudor sur la pierre, cette manière scandinave d'envisager le monde ?
Alors, il me semble qu'il y a, évidemment, quand on utilise l'expression d'âme scandinave, d'emblée, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle peut paraître datée. Et elle est très 19e-miste d'une certaine manière. C'est peut-être pour ça qu'elle va si bien à Ibsen. C'est vrai qu'Ibsen, Shell en norvégien, âme, utilise souvent le terme d'âme. Knut Hamsun, l'écrivain norvégien, avec lequel Ibsen va se sentir en concurrence d'ailleurs. Et Solness le constructeur, c'est une pièce où, dans le fond, Ibsen écrit sa concurrence face au jeune Hamsun. Mais Hamsun aussi a écrit des essais sur l'âme.
Il y a l'idée de l'âme qui serait nordique alors que l'idée serait européenne. En fait, oui, l'européenne est plus intellectualisante et le nord plus... Alors, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire.
Alors, c'est une question de représentation. C'est-à-dire que quand nous, on utilise l'expression âme, et là, je viens de dire effectivement que les écrivains norvégiens l'utilisent, hein, donc Ibsen et Hamsun, je crois, ne seraient pas contre cette idée. Il me semble que c'est une façon dont les Scandinaves là se caractérisent et dont il nous plaît de les caractériser. C'est évident qu'ils n'ont pas, ils ont une propension à la réflexion et également et qu'ils ne sont pas les seuls dans la. Mais ce terme d'âme me semble renvoyer quand même à un état, renvoie bien à un état du pays dans cette deuxième moitié du 19e siècle et avec toute la et donc effectivement âme scandinave qui s'oppose à ce qu'on appellerait l'esprit latin par exemple, mais qui veut caractériser aussi cette idée qu'il y aurait quand même une spécificité scandinave, qui, voilà, quelque chose, et puis avec le terme d'âme, peut-être un peu post-romantique ou post-romantique, donc quelque chose d'un peu indicible ou insaisissable.
Devinez un peu ce que je rêve, et médite, et entrevois comme une chose délicieuse. Me fixer sur les bords du Sand, entre Copenhague et Elseneur, dans un endroit découvert où je puisse apercevoir les grands bateaux, venant de loin ou s'en allant au loin. Ici, je ne le puis pas, car tous les chemins sont fermés. Donnez aux mots plusieurs acceptions. Toutes les voies sont barrées à la communication de la pensée. Cher Brandes, on ne vit pas impunément pendant 27 ans dans l'atmosphère large et libre des grands centres de la civilisation. Ici, près des fjords, est ma terre natale, mais où est ma patrie? La mer est ce qui m'attire le plus fortement. Au reste, je m'occupe dans mon isolement d'un nouveau projet d'ouvrage dramatique.
La lecture d'une lettre d'Ibsen au critique littéraire danois Georg Brandes, qui montre bien, et là on creuse un petit peu l'aspect politique que déjà vous esquissez, Frédéric Toudoir, sur la pierre. On comprend bien qu'il ne sait pas très bien où est sa patrie, Ibsen, où est-ce qu'il se situe dans cet ensemble scandinave, et peut-être plus largement, où est-ce qu'il se situe en Europe?
Oui, cette lettre est intéressante d'abord parce qu'elle est effectivement adressée à Georg Brandes et donc est un penseur danois donc de la deuxième moitié du 19e siècle qui va justement permettre l'éclosion de la littérature et de la pensée, de la culture scandinave. Et ce qui est intéressant, c'est que donc Georg Brandes va effectuer un certain nombre de conférences. En fait, ce qui est intéressant dans ce trajet, enfin, il y a plusieurs choses, mais Georg Brandes, en fait, attend une chaire à Copenhague. Et en fait, il s'attend à avoir une chaire à l'Université de Copenhague. Il ne l'a pas. Il est très déçu. Et du coup, il part en Europe faire des conférences. Et de ce trajet en Europe, il va revenir avec une série de conférences sur des auteurs européens. Et c'est ce mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce mouvement-là lui donne l'idée aussi dans ses conférences. Il va développer l'idée de défendre une culture scandinave et de valoriser une sorte d'identité scandinave culturelle. Et je trouve ce trajet exactement intéressant parce qu'il est exactement symétrique avec Ibsen. C'est-à-dire que, à la fois, ils sont obligés de partir. Alors, finalement, il aura une chaire. Georg Brandes aura une chaire et va être fêté dans son pays. Mais ils sont obligés de partir. Ils ne sont pas reconnus par leur pays. Et en même temps, c'est ce voyage à l'étranger qui va leur faire comprendre tout l'intérêt de la culture scandinave. Et il n'est pas impossible, en tout cas c'est la donnée que l'on a, que c'est cet exil finalement qui leur permet de reconnaître la culture scandinave. Il me semble que ça la revalorisation de cette culture scandinave, donc à passer par le détour par l'Europe, comme une sorte de miroir qui va renforcer les couleurs scandinaves. Et moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que Brandes, comme, alors lui, il le fait sur le terrain de l'essai ou du discours, et puis Ibsen sur le terrain du théâtre, mais ça revalorise, le détour par l'Europe revalorise leur identité scandinave.
Et donc, il y a cette volonté chez Ibsen de créer un théâtre qui serait un théâtre spécifiquement norvégien. Mmh. Frédéric Toudoir sur la pierre, est-ce que ça, c'est une ligne de force qui va finalement s'amplifier tout au long de la vie d'Ibsen?
Oui, ce qui est intéressant, c'est que Ibsen, le théâtre qui se joue à l'époque, au début d'Ibsen, c'est un théâtre à la Scribe. Donc, ça vous dit, on pourrait dire d'une certaine manière, avec des recettes bien connues, recettes dramaturgiques bien connues, et puis proche d'une sorte de mélodrame un peu bien réglé, bien huilé, qu'aime le spectateur. Et si on réfléchit, que fait Ibsen ? Il propose avec Brandt et puis ensuite Peer Gynt deux pièces, alors d'abord qui ne sont pas des pièces, on appelle ça des lesodramas, c'est-à-dire des pièces à lire, mais qui sont en totale rupture avec le théâtre que les spectateurs scandinaves ont l'habitude de voir, d'où il n'est pas reconnu par ses pairs. Il attend aussi, pareil, un peu comme Brandes, il attend une reconnaissance pour travailler dans un théâtre. Il ne l'a pas, et du coup c'est pour ça qu'il s'en va, et c'est en exil qu'il va écrire des pièces, notamment on peut penser à Une maison de poupées ou Les Revenants, qui là se colore d'une certaine manière de on va dire d'emprunt européen, mais en même temps qui vont renforcer la question de l'identité scandinave. Et donc ce que je trouve aussi intéressant dans Ibsen, c'est qu'il y a, je trouve que son théâtre, si on regarde les pièces et on regarde un petit peu la chronologie, il y a une évolution quand même de son théâtre. Son théâtre n'est pas monolithique. Et donc, voilà, il y a une sorte de différentes étapes, mais qui vont marquer effectivement profondément un tournant dans le théâtre, pas simplement norvégien, mais européen.
Et alors ça, est-ce que c'est lié finalement à un nationalisme, qui serait le nationalisme d'Ibsen, même si, effectivement, il est en exil pendant 26 ans, mais il aime son pays et il souhaite que son pays ait politiquement une importance. Est-ce que vous voyez un lien ici?
Je ne sais pas s'il souhaite que son pays ait une importance, mais par exemple, Ibsen part en exil, mais il a une bourse du Parlement norvégien. Et il me semble que ce détail n'est pas anodin, ça dit quand même, d'une certaine manière, aussi Ibsen, bien sûr, il est en exil, il est tout dans son pays, il ne peut pas, il est à Rome, à Berlin, à Dresde, à Munich, mais en même temps, ce que je trouve aussi, et autre détail qui n'en est peut-être pas un, c'est que les pièces d'Ibsen sont jouées en Scandinavie. Les premières d'Ibsen il y en a en Europe, bien sûr, mais par exemple, Paris est assez tard. Les premières pièces d'Ibsen sont jouées à Paris 10 ans finalement après l'écriture d'Une maison de poupées. Donc c'est 10 ou 12 ans, donc c'est assez tard, et les premières représentations sont dans d'autres pays. Alors ça va être au Danemark, mais il est poussé notamment par un metteur en scène norvégien qui met en scène le théâtre d'Ibsen. Et donc je trouve quand même intéressant de se dire qu'effectivement c'est quelqu'un de l'exil, c'est quelqu'un qui ne peut pas être chez lui d'une certaine manière, et en même temps il a des liens, et ce n'est pas un exil totalement politique comme on pourrait le penser aujourd'hui. Je crois que ça serait
c'est un exil de l'ordre de l'agacement au fond.
Oui, c'est un exil aussi, j'allais dire bourgeois, enfin un petit peu bourgeois, culturel ou bourgeois. Je pense que dans cette fin du 19e siècle, il y a aussi l'idée que l'écrivain cultivé voyage. Ça, le Grand Tour en Italie existe. Enfin, ça renvoie à une sorte de cette idée que les écrivains scandinaves voyagent parce qu'ils sont peut-être mal dans leur pays, mais aussi parce que ça fait partie de leur culture, je pense, de la culture, on pourrait dire même européenne.
Alors, parmi les thèmes spécifiquement scandinave dont Ibsen va se saisir, il y a bien évidemment la nature. Comment est-ce que la nature apparaît dans les pièces d'Ibsen, Frédéric Toudoir sur la pierre?
Oui, c'est vrai qu'elle est... alors si on pense à la nature dans le théâtre d'Ibsen, elle a une drôle de place, parce qu'effectivement, alors bon nombre, enfin plus... plusieurs de ses pièces ont un décor sur fond très typiquement norvégien quand même, des fjords, penser à dans les revenants, on est dans la Norvège effectivement aussi telle que nous la représentons et telle qu'elle
nous
fait plaisir.
C'est du folklore aussi.
Ben en tout cas il prend quand même une image qui est une image réelle, le fjord c'est une image réelle, mais dont il sait qu'elle fonctionne comme un archétype ou comme un stéréotype.
Elle fonctionne mieux à l'étranger peut-être qu'en Norvège.
Je pense qu'elle fonctionne doublement, mais pas de la même manière. C'est-à-dire qu'elle fonctionne également, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que pour le spectateur scandinave, elle fait code. Et pour le spectateur européen, français ou allemand, elle a quelque chose de divertissant et d'exotique. Et donc, on est ailleurs. C'est l'idée vraiment du déplacement. La scène théâtrale ici fonctionne comme déplacement. Donc, il y a un premier élément chez Ibsen de décor, enfin, me semble-t-il. Il y a un deuxième élément, on l'a par exemple dans Peer Gynt, c'est pour ça que c'est aussi une pièce à lire, mais c'est assez fabuleux de voir Peer Gynt, d'ailleurs c'est aussi un peu le voyage d'Ibsen, on pourrait dire, pas exactement, mais quand même qui fait penser. Peer Gynt voyage dans la Norvège, et donc il y a des tas de scènes dans Peer Gynt, où on se dit, mais si c'est pour la représentation, d'ailleurs c'est Patrice Chéreau s'en est merveilleusement emparé aussi de ce défi dramaturgique de représenter comme ça la scène, la nature norvégienne, et même s'il n'y a pas que la Norvège dans Peer Gynt. Il y a un autre élément qui est aussi intéressant chez Ibsen, c'est la façon dont il représente la nature, mais par le biais par exemple des animaux. Je pense au Canard sauvage, où on a cette idée quand même incroyable de mettre une forêt en scène, que il y a une mini-forêt.
Dans le grenier.
Oui.
Une autre particularité, même si le mot a tendance à enfermer un petit peu, mais qu'on pourrait trouver en Scandinavie, c'est le rapport spécifique avec les images. Alors expliquez-nous ça, et en quoi finalement ce rapport spécifique avec les images se retrouve également chez Ibsen. Et dans une forme de symbolisme.
Ah oui, alors c'est vrai qu'une des difficultés, d'ailleurs, à la fois une fascination, mais une difficulté du théâtre d'Ibsen, c'est qu'on se rend compte que certains éléments, d'ailleurs même il suffit de penser au Canard sauvage, là par exemple, ou la forêt, cette forêt à la fois sauvage et domestiquée, dans le Canard sauvage, qui fonctionne comme une sorte de... D'ailleurs, le titre même, alors on a dit c'est la canne, mais je ne sais pas moi si le masculin ou le féminin change vraiment le sens, en revanche qu'elle soit sauvage. Dit quelque chose.
Elle n'est pas vraiment sauvage puisqu'elle est enfermée dans un grenier.
Oui, mais c'est aussi ce que le théâtre fait à la nature, peut-être qu'Ibsen s'amuse avec ça. C'est-à-dire, dans le fond, voilà, elle est sauvage, mais elle est avec des animaux de basse-cour. D'ailleurs, il a mis des poulets, des lapins aussi. Mais elle fonctionne comme une sorte d'ersatz. Mais là, quand vous parlez d'image, c'est exactement ça. C'est une sorte d'image. C'est-à-dire, c'est une image miniature de la Norvège telle qu'on se la représente. Mais ce qui est aussi effectivement qui est difficile dans le théâtre d'Ibsen, c'est que on sent que certaines images, effectivement, qui vont renvoyer parfois à certaines expressions, par exemple dans le Canard sauvage, cette expression qui revient tout le temps, qui est en norvégien l'ixlønn, c'est-à-dire les mensonges. Alors, en fait, littéralement, ce serait les mensonges dont on a besoin pour vivre. Donc, on traduit par mensonges vitaux. Voilà, c'est une expression qui revient. Ou également le canard. Et donc, ce sont des images qui reviennent et dont on sent qu'elles ont une valeur symbolique et donc, effectivement, qu'il n'est pas toujours aisé de décrypter, en fait. Il faut quand même, je pense, pour un spectateur européen, c'est pas toujours simple de le comprendre. Et justement, je pense que c'est ce qui fait la fortune aussi du théâtre d'Ibsen, c'est sa grande richesse, c'est que pour ça qu'il est peut-être tellement monté encore aujourd'hui sur la scène européenne, c'est que toutes ces images symboliques, il n'est pas symboliste, mais il a des images symboliques, mais après, peut-être on peut dire qu'il y a une évolution vers le théâtre symboliste d'Ibsen, c'est aussi une hypothèse qu'on peut suivre. Mais toutes ces images sont intéressantes pour le dramaturge, pour le metteur en scène. Pose des questions de représentation qui sont intéressantes. C'est peut-être ce qui fait aussi la fortune de son théâtre.
Et puis les images, c'est peut-être aussi les tableaux. Il a peut-être regardé un certain nombre de peintres. On pense à Munch en particulier.
Oui, c'est vrai je me suis interrogée effectivement sur cette idée. Est-ce qu'il y aurait une spécificité d'Ibsen par rapport à cette idée de l'imaginaire nordique ou de l'âme nordique? Effectivement, par comparaison, on se dit mais il y a un grand peintre norvégien qui est Edvard Munch, qui est à peu près contemporain, pas exact. peut-être à peu près contemporain, donc qui est quand même et qui va lui aussi, en termes de d'image justement, complètement, me semble-t-il, transformer la peinture. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, si on pense au cri, hein, pour donner un tableau que, évidemment, qui fait image pour tous, là, qui fonctionne comme une image mentale facile. Ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'il me semble qu'on cerne quelque chose, une sorte de spécificité, en tout cas de ce que j'appelle l'imaginaire nordique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce tableau au fond ? C'est un visage, enfin c'est un personnage au premier plan dont l'intérieur, dont on voit le squelette finalement, qui a fait Moon, qui l'a peint l'intérieur à l'extérieur. Et c'est exactement, il donne à voir ce qui est normalement à l'intérieur. Et c'est ce principe d'inversion, c'est-à-dire montrer ce qui est à l'intérieur. Je me dis, mais dans le fond, c'est exactement peut-être ce que veut faire Ibsen. Donc, montrer à l'intérieur, le principe d'Ibsen, on pourrait se dire, un des procédés de son théâtre, donc ce soit une recette, mais peut-être quelque chose qui l'intéresse en fait, et qui une piste qui va suivre toute sa vie, c'est cette idée que dans le fond, le théâtre d'Ibsen, ce sont des moments où les personnages vont se mettre à nu, c'est-à-dire c'est un moment où les personnages se dévoilent. Et ce qui est intéressant, c'est que Ibsen pense profondément que le personnage, enfin donc l'être probablement, se transforme, c'est-à-dire que dire son intériorité transforme ce qu'on est.
La vérité nous transforme.
Alors, pas forcément
montrer
la vérité.
Qui on est vraiment.
Parce que, justement, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas forcément qui on est vraiment. C'est-à-dire que, c'est pas forcément la vérité. C'est-à-dire que, Solness, le constructeur, par exemple, lui, il se fait manipuler par cette jeune femme qui veut absolument qu'il reconstruise comme ça des tours. Et on pourrait dire, dans le fond, il se fait manipuler. Pensez le canard sauvage, la petite Hedwig, à la fin de la pièce, se tue. Elle se fait manipuler par Gregers. Donc les personnages et qui lui a des idéaux, qui lui dit justement il faut évacuer ses mensonges vitaux, qui lui a un idéal de vérité, et justement les personnages se tuent à cette. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que les personnages se tuent à cette tâche de révélation. Et ce que montre Ibsen, c'est justement que dévoiler sa propre vérité, ce n'est pas sans risque. Et vous remarquerez que les personnages d'Ibsen se suicident beaucoup quand même.
Nous poursuivons cette discussion avec vous, Frédéric Touvard, sur la pierre dans quelques minutes. Mais tout de suite, sur France Culture, c'est le moment d'En compagnie des revues. En compagnie des revues, nous avons aujourd'hui le plaisir d'être rejoints par Olivier Mauny en duplex de Bordeaux. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu.
Alors Olivier, aujourd'hui je crois que vous voulez nous parler d'un aventurier.
Eh oui Mathieu, et même de l'un des plus fascinants qui ait jamais existé, au moins en France. Alors c'est vrai qu'on va changer de latitude, on était dans le Grand Nord, et on va descendre beaucoup plus bas, beaucoup plus vers les tropiques et l'Amérique latine, la Guyane, on va le voir. Cet aventurier est un aventurier bien sûr, mais aussi un écrivain, un homme d'affaires, un journaliste, un chercheur d'or, un député de la République, un bagnard, un coureur de jupons, un agent du gouvernement, un idéaliste et finalement, tout le laisse à croire, la victime d'un assassinat politique. Il s'appelait Jean Galmot. Il était né à Montpazier en Dordogne en 1879 et mourut à Cayenne en Guyane en 1928. Il est assez oublié aujourd'hui, même si au début des années 90, souvenez-vous, un biopic Jean Galmot aventurier, où Christophe Malavoy lui prêtait ses traits, lui avait permis d'être une première fois sorti de l'oubli.
Et est-ce qu'il y a une raison qui fait qu'on en parle aujourd'hui ? Il a l'air évidemment de ne pas manquer d'envergure, mais au-delà de ça, Olivier Mauny ?
Oui, la raison s'appelle « Un mort vivait parmi nous ». C'est le livre de Jean Galmot, l'un des deux qu'il a écrit en vérité, mais l'unique roman que vient d'éditer une nouvelle maison d'édition d'Aquitaine, L'Éveilleur, qui est une émanation de la précieuse revue Le Festin, pour ceux qui connaissent. L'Éveilleur semble se destiner à la réédition de textes rares, voire inédits, et annonce déjà l'apparition de titres de Francis Jammes, Jean Cayrol ou Pierre Luxin, entre autres. Nous y reviendrons peut-être en temps voulu.
Et alors de quoi est-il question dans « Un mort vivait parmi nous »
Je l'ai dit rapidement, de la grande affaire de Jean Galmot, la Guyane, de cette terre qu'il découvre jeune marié pour y exploiter un terrain aurifère que lui concède son beau-père, un richissime américain. Cette terre presque vierge, encore, dont jeune homme, lecteur de Stevenson ou de Marcel Schwab, il a sans doute rêvé aussi pour mieux oublier le morne quotidien d'un jeune bourgeois de la province française en cette fin du 19e siècle. Cette terre dont il attend simplement qu'elle le distrait et l'enrichisse et dont il va finalement se faire l'infatigable héros, H-E-R-A-U-T, l'élu, député, on l'a dit, puis maire de Cayenne, l'ardent propagandiste de la dignité des populations autochtones et contempteur du colonialisme. Cette terre le choisit autant qu'il l'a choisi. C'est cela, Un mort vivait parmi nous. Ce roman halluciné sacrifiant à la fascination de la forêt guyanaise, à ses sortilèges et ses dangers. L'histoire d'une femme, partie rejoindre son époux en Guyane et empêchée de le faire par la montée des eaux. Elle rencontrera un certain nombre de figures fortes et un fantôme, le mort du titre, symbole de tous ceux qui ont péri à la recherche de l'or. Elle y rencontrera surtout sa vérité intime. S'il n'est pas exempt de quelques désuétudes, le roman, convainc par sa puissance poétique, la force du désir qui circule entre chacun. On songe dans certaines pages, par exemple, aux Simenon des grands romans africains, comme à Sandra Ars, bien sûr.
Donc, à vous entendre, l'absence de postérité littéraire de Jean Galmot est une injustice.
Ah, je crois, oui. En fait, il s'est passé ce qu'il se passe parfois. Le personnage Galmot a eu la peau de l'écrivain. Jean Galmot était l'une des personnalités les plus marquantes, on dirait aujourd'hui aussi les plus clivantes de la France de l'entre-deux-guerres. Rendez-vous compte, les rumeurs les plus folles courent sur lui. On dit qu'il a failli rentrer dans les ordres, qu'il est le premier dénonciateur de Stavisky, avec qui il partageait une maîtresse, et il avait imaginé s'en débarrasser comme ça, pas de la maîtresse, hein, de Stavisky, que dans sa jeunesse précepteur à San Remo, puis journaliste à Nice, il a contracté des dettes de jeu colossales, qu'il a installé son épouse, et son fils dans un château en Dordogne où il vit comme un roi en exil. Il s'associe par exemple à Georges Anquetil, qu'on a oublié maintenant, mais qui était l'ancien bras droit de Marthe Hanau, la sulfureuse banquière portée au cinéma, là aussi sous les traits de Romy Schneider. 10 ans durant, il n'y a pas une affaire, pas un scandale où son nom ne soit cité. Jusqu'à sa mort, mystérieuse, puisque d'abord considérée comme naturelle, avant qu'une autopsie permette de révéler dans son corps une présence de cyanure qui signe évidemment un crime, mais un crime dont les auteurs resteront inconnus. Les écrivains aussi, et peut-être surtout, participent à cette mythification. Louis Chadourne, d'abord, qu'on a trop oublié aujourd'hui, c'était un bel écrivain, Louis Chadourne, et qui fut son secrétaire, et lui consacre un roman à clé. Et surtout, il est le héros tragique de Rome. Vous vous souvenez de Rome? C'est l'un des grands romans de Blaise Cendrars. C'est peut-être ainsi, d'ailleurs, que malgré tout, la postérité littéraire finira par le rattraper. Ainsi, et grâce maintenant, espérons-le, à cette belle tentative d'exhumation des éditions de L'Éveilleur.
Eh bien, merci pour cette redécouverte, Olivier Mauny. On vous retrouve mardi prochain et dans l'intervalle, évidemment, comme d'habitude, dans les colonnes du quotidien Sud-Ouest.
On ne peut pas interpréter Strindberg, il faut le faire et se dire, c'est comme ça que sans doute on peut s'imaginer, mais interpréter dans le sens que d'en mettre une espèce d'idéologie ou une didactique, ce n'est pas possible, puisque c'est un auteur qui, même ce qui n'est pas toujours agréable, met en scène parfois même un auteur sur scène. C'est très difficile de faire un auteur sur scène. Ce qui est moderne et ce qui est attirant, c'est que c'est quelqu'un qui parle d'une manière assez insolente et qui est très insolemment autobiographique dans ce qu'il écrit.
Et Ibsen ?
Ibsen moins. Ibsen est plus un constructeur, comme son Solness lui-même.
Absolument, oui. C'était aussi un socialiste.
C'était beaucoup plus, oui, beaucoup plus un constructeur. Et je dirais par exemple que, comparé au cinéma, Ibsen, il serait un scénariste à Hollywood qui construit des films extraordinaires, et que l'autre serait plus un auteur de la nouvelle vague, un auteur qui parle de lui-même.
C'était Luc Bondy qui comparait les deux grands auteurs nordiques, Ibsen et Strindberg. Est-ce qu'on a raison de les comparer, Frédéric Toudoir sur la pierre ?
cas, on ne peut pas s'en empêcher. D'ailleurs, on aurait tort de s'en empêcher.
Mais qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui les différencie?
Ce que dit Luc Bondy, je trouvais très juste. En tout cas, moi, je perçois de la même manière cette... Il y a une différence. Effectivement, il y a quelque chose de profondément impudique chez Strindberg dans son théâtre. C'est un théâtre intime, hein, s'il a caractérisé ça comme ça, des pièces de chambre, Kammerspiel. Mais c'est vraiment ça. Et on se sent vraiment dans la chambre à coucher d'un couple. C'est parfois un peu gênant.
Mais en quoi sont-ils tous les deux profondément scandinaves?
Alors, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont construits aussi l'un en concurrence avec l'autre. Il y a une émulation, effectivement. Il est évident que Ibsen répond. On peut se dire qu'une maison de poupée répond à Mademoiselle Julie et que voilà. Donc il y a une concurrence entre les deux. D'ailleurs, à cette époque-là, une concurrence vis-à-vis de Zola, d'ailleurs. Mais cette concurrence forme une émulation et puis permet aussi voilà de créer une sorte de donne un noyau dur et qui a créé le théâtre. Alors, quelles seraient les différences? C'était votre question. Qu'est-ce qui les associe plutôt?
Qu'est-ce qui les associe et puis qu'est-ce qui en fait quand même des Scandinaves?
Alors, il me semble que bon, ils renvoient tous les deux à cette même société quand même. Ils décrivent. Alors, c'est vrai que Ibsen s'intéresse au côté social et politique de son temps. Il est communautaire, c'est-à-dire ce qui l'intéresse effectivement beaucoup de ses pièces parlent quand même voilà de ce qu'est la société dans le sens des êtres humains voilà comme individus au sein d'une communauté. Ça, Strindberg ne s'y intéresse pas. Moi ce que je retrouve pareillement c'est quand même une certaine j'ai dit que Strindberg était impudique, mais je trouve aussi qu'il y a une certaine, je ne sais pas si c'est vraiment l'impudeur chez Ibsen, mais en tout cas quelque chose de provocateur et voire d'indiscret ou en tout cas de dérangeant. C'est quand même assez étonnant de se dire que bon, il suffit de penser qu'une maison de poupée, cette femme qui quitte son mari à la fin et ses enfants à la fin de la pièce, est suffisamment choquée. Et d'ailleurs, on voit comment les dramaturges contemporains essayent encore d'écrire des suites à cette pièce, ce qui dit à quel point elle est dérangeante dans le fond, mais ce qui montre qu'il y a quelque chose de dérangeant, que ce soit penser les revenants, la pièce, dans le fond, le fils demande à sa mère de l'achever, et finalement...
Parce qu'il a la syphilis, ce qui est là aussi très choquant.
Oui, ce qui est choquant. Alors peut-être, finalement, je ne sais pas si... C'est choquant, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment très mal. Mais...
Il ne faut pas le faire.
Et surtout, en fait, ça lui tombe dessus, c'est son père, ça lui vient de son père. Donc il y a quelque chose sur l'hérédité qui est profondément choquant, mais ce que propose...
Ce qui n'est pas scientifiquement
probablement faux. Alors ce qui est intéressant, c'est deux choses, c'est que fait Madame Alving dans cette pièce. Elle propose à son fils, parce qu'en fait il a un petit penchant pour Régine, qui en fait est aussi la fille de son père. Donc en fait, elle lui dit, si tu as besoin d'elle pour vivre, elle l'accepterait, sinon un mariage, au moins une union incestueuse. Enfin, je veux dire, la pièce d'Ibsen parle exactement de ça. Il me semble que là, c'est quand même particulièrement, en tout cas, il y a quelque chose de vraiment... dérangeant dans cette pièce, même au-delà de la syphilis. Et donc je trouve qu'Ibsen ose parler de certains sujets et qui sont des sujets de société, pourrait-on dire. Donc il renvoie à ce qui était probablement une donnée de la, sans faire injure, de la Norvège de cette époque-là, c'est-à-dire probablement qu'il y avait des mariages entre demi-frères et demi-sœurs qui arrangeaient tout le monde. D'ailleurs, vous remarquerez dans les pièces d'Ibsen, il y a peu de personnages, mais tous les personnages se recoupent. Ils ont forcément... Ce sont des petites relations en général à trois ou quatre, et donc ils sont tous les enfants les uns des autres un petit peu. Ils renforcent énormément les liens.
Et puis ce que Ibsen et Strindberg ont en commun, c'est une langue qui n'est pas la même exactement, mais qui a des choses en commun.
Oui, ils revendiquent. Enfin, d'abord, effectivement, ils ont cette langue. Alors, ce n'est effectivement pas la même. Strindberg écrit en suédois forcément, et puis ce n'est pas la même aussi. Pourquoi? Parce que Strindberg comprend le français. Par exemple, il a aussi écrit en français, il a écrit son autobiographie en français, donc il n'a pas le même rapport à la langue. Ibsen est très norvégien, c'est-à-dire que lui il comprend le français mais il le parle mal, il n'a pas écrit en français. Et puis vous savez que la Norvège est d'abord également, on ne l'a pas dit, mais la Norvège et la Suède n'ont pas les mêmes rapports de domination, puisque la Norvège a été dominée 400 ans par le Danemark, et à l'époque d'Ibsen, elle est encore sous tutelle suédoise pour les affaires extérieures. Donc c'est pas un pays complètement indépendant alors que la Suède est le pays dominant. Et donc Strindberg fait partie du pays dominant. Et Ibsen,
ça change des choses.
Moi, je pense profondément que être dominant ou dominé, oui, on n'écrit pas les mêmes choses. Et la revendication norvégienne, c'est faite par la langue. Il y a deux langues en Norvège, hein, ce qu'on appelle le landsmål et le riksmål, c'est la langue de la campagne et puis la langue des livres, en fait, hein, pour le dire.
Le landsmål, c'est la langue de la campagne.
Oui.
Et Ibsen écrivait dans la langue de la ville, dans
oui,
le riksmål.
Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une revendication d'écrire, quand la Norvège acquiert son indépendance, d'écrire dans ce qu'ils ont appelé le riksmål et ensuite le nynorsk, que c'est d'ailleurs le nouveau norvégien. Sauf que les écrivains, eux, n'ont pas écrit en nouveau norvégien. Et sauf le seul qui est écrit en nouveau norvégien, c'est Tarjei Vesaas. Mais et Ibsen lui-même garde la langue, finalement, de la domination, c'est-à-dire ce norvégien matiné de danois et de suédois. Et ils essayent d'insérer quelques termes de nouveau norvégien, mais ils n'y arrivent pas. Et donc, la langue garde cette tradition de domination et de ce rapport de concurrence et de rivalité qui existe entre les pays scandinaves.
C'est assez simple à dire, Ibsen. C'est un langage assez quotidien, assez parlé. Il y a tout d'un coup des phrases plus mystérieuses que d'autres, plus poétiques, mais finalement qui viennent comme des petits espaces, comme ça, un peu abstraits, un peu mystérieux. À un moment donné, Hedda Gabler, par exemple, parle de la mort, la première fois qu'elle parle de la mort, et elle dit « Ça sent la mort, ici, l'odeur des fleurs de Bâle, le lendemain. » C'est beau. C'est une sorte de... une petite échappée poétique et prémonitoire aussi.
Isabelle Huppert qui parlait de l'interprétation d'Ibsen, elle semble trouver que la langue d'Ibsen au fond est assez simple, mais c'est peut-être parce que c'est dans les silences, Frédéric Toudoir, sur la pierre, que se joue beaucoup le sens des pièces d'Ibsen et des pièces nordiques en général. Quelle est la valeur du silence et la valeur de la parole qu'on ne comprend peut-être pas suffisamment chez nous et qui est présente dans les pièces d'Ibsen et dans les pièces scandinaves en général?
C'est vrai, il faut peut-être dire que le théâtre en soi, en Scandinavie, c'est en soi une sorte de performance contre le silence. C'est-à-dire que les pays scandinaves ont un rapport au silence, on n'a pas du tout le côté bavard des latins, mais on fait des stéréotypes, mais là on a raison. Et ce qui est intéressant, c'est que le parler, c'est en soi déjà une victoire contre le silence. Et ce qui est intéressant, c'est que donc quand Ibsen, par exemple, fait un théâtre, et un théâtre volubile, vous remarquerez, c'est un théâtre, d'autant plus qu'effectivement il se dit bien. Et Isabelle Huppert a raison de noter, puisque, elle note la facilité de dire Ibsen, et elle a raison, parce qu'en fait, ce qu'elle cherchait à faire Ibsen, c'est à la fois ce qu'il a qualifié la discussion et la réflexion. C'est-à-dire, il veut pas simplement qu'il y ait des dialogues, il veut vraiment que ça reflète, ce qu'il y aurait quand on parle comme ça avec un ami ou un voisin. Et qu'il y ait une réflexion, c'est-à-dire qu'il y ait une évolution, que la parole même a une évolution. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le théâtre d'Ibsen, c'est un théâtre qui me semble volubile. C'est, vous regardez par exemple, tout son théâtre, mais les personnages, Peer Gynt, moi, me frappe par, c'est un personnage volubile, c'est un personnage qui aime parler. Et aimer parler, c'est en soi une infraction contre une sorte de pesanteur morale qui fait qu'on pèse ses mots. Et effectivement, dans les pays scandinaves, surtout dans la seconde moitié du 19e siècle, on ne parle pas à tort et à travers.
C'est parce que les fermes sont éloignées les unes des autres, comme le disait Ibsen dans sa correspondance.
Mais il le dit, effectivement. Alors c'est vrai que pour nous, ça fait un petit peu, on se dit, ça nous paraît caricatural, exagéré. En fait, quand on va dans ces pays, on est frappé effectivement que le rapport au silence, ils ont moins peur du silence que nous. Ça, c'est une évidence. Et ce que je trouve intéressant chez Ibsen, c'est que Ibsen brave ce silence. C'est-à-dire qu'il fait, il inscrit la parole délibérément contre ce silence, et notamment une des autres, une des expressions que ça va prendre, c'est le théâtre d'Ibsen va dire le non-dit, c'est-à-dire que justement ce qui s'inscrivait dans les. Et notamment par un des principes, un des principes discursifs d'Ibsen, c'est le sous-entendu, c'est-à-dire vous dites sans dire, vous laissez. Le sous-entendu, c'est une parole que vous remplissez d'un certain silence, finalement, c'est-à-dire que vous laissez entendre qu'il y a eu d'autres choses de dites, mais vous ne les dites pas. Autrement dit, il me semble que c'est le principe d'écriture théâtrale d'Ibsen reprend effectivement le rapport au silence et à la parole.
Mais si on est silencieux en Scandinavie, c'est aussi parce qu'on lit beaucoup. La lecture est très importante dans la société norvégienne. Le livre est présenté comme indispensable à l'éveil critique.
Alors il est présenté comme il est important il est important, peut-être qu'on pourrait dire mais quel livre peut-être qu'il faudrait préciser. Et je suis fascinée, moi, dans Les Revenants, il y a une scène, donc Panna Valvin qui est la veuve de ce chambellan fort à la vie fort dissolu, et elle a un petit peu essayé. Il y a une didascalie, à un moment elle dit le pasteur arrive, alors lui qui est vraiment un peu dans son rôle, si vous voulez, donc un tout petit peu réactionnaire et étroit, et en fait il feuillette, il observe des livres sur la table, et il feuillette ses livres, et après il va dire à Madame Alving tout le mal qu'il pense de ses lectures. Mais moi je me dis, mais à quel livre exactement Ibsen a-t-il pensé quand il a mis cette didascalie? Et vous aurez remarqué qu'a fait Ibsen, il a mis cette didascalie sur les livres, il n'a pas précisé quel livre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, quand vous écoutez Madame Alving parler dans la pièce, effectivement, on voit qu'elle est empreinte de toutes ces idées libérales, d'une certaine idée libérale de cette époque, hein, mais en même temps qu'elle a très mal digéré, donc comme elle est libérale, elle propose une union libre à son fils, avec effet éventuellement celle qui est sa demi-sœur. Enfin, et donc c'est assez étonnant. Donc il me semble que effectivement c'est un pays qui aime la lecture, et bien sûr les Nordiques sont des grands lecteurs et des lecteurs érudits, mais en même temps peut-être qu'il faudrait préciser quel type de lecture, et tout le monde ne lit pas tous les livres, et tous les livres ne sont pas pareillement accessibles.
Comment vous expliquez, pour élargir un petit peu le sujet puisqu'on s'approche de la fin de cette émission, l'engouement d'aujourd'hui pour la littérature nordique, alors qui passe beaucoup par les romans policiers. Est-ce que vous voyez là un lien, un changement de regard sur la littérature des pays du Nord?
Alors, il y a une expression de Régis Boyer que j'aime beaucoup. Il dit que les écrivains nordiques sont là pour sublimer nos peurs. Et alors, ça, je trouve qu'elle est très très juste, parce que dans le cas du thriller, dans le cas des thrillers, et dans le cas du ce qu'on appelle un peu communément le polar nordique, on se dit mais effectivement ça fonctionne. Et moi, il me semble effectivement qu'il y a une vraie violence, et il y a un principe de catharsis. Et c'est pour ça que sur le théâtre, ça fonctionne bien, c'est-à-dire que la violence est cathartique. Il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que c'est le Nord. C'est pour ça qu'on ça nous plaît sans doute ces polars du Nord ou ces thrillers du Nord, c'est que ça nous permet d'exorciser ces pulsions agressives qu'on aura en nous, mais justement dans un autre espace, un espace lointain, me semble-t-il, qui nous permet de nous libérer, et en même temps ce n'est pas nous, donc il y a quelque chose vraiment de cette inquiétante étrangeté que décrit Freud, mais qui là me semble assez opérante.
Et qui va dans une revalorisation générale des cultures du Nord.
Oui, mais je pense qu'elle fonctionne aussi parce que d'une certaine manière, on voyage plus, on s'intéresse peut-être à d'autres zones. C'est vrai qu'actuellement, on se rend compte que il y a un regain, par exemple, pour la littérature islandaise. Donc, mais aussi parce qu'on va plus au nord. Vous voyez, on essaye d'aller plus loin dans nos limites. Je pense que c'est pour ça que cette idée que le nord, c'est la façon dont on teste nos limites. En fait, c'est une sorte de mise en abîme de notre goût de dépasser les limites. Et notamment notre capacité de survie. Enfin, c'est probablement ça qu'on joue aussi avec le Nord.
Et à l'inverse, comment est-ce que le Nord s'envisage par rapport à l'Europe aujourd'hui, enfin l'Europe latine?
Alors ils ont une sorte de double rapport. C'est vrai que, c'est-à-dire qu'à la fois ils sont très fiers de leur propre culture, et c'est vrai que quand vous êtes une culture qui vient des sagas islandaises hein, du 12e, 13e siècle, vous avez un patrimoine littéraire à votre actif. Dont qui vous donne à mon sens une sorte de fierté, une sécurité enfin intellectuelle et culturelle. Et puis en même temps, évidemment, si vous écrivez en islandais ou en norvégien ou en suédois, vous n'êtes pas facilement lu, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils maîtrisent si bien les langues étrangères. Ils ont à la fois une sorte de fascination, et puis en même une fascination pour l'ailleurs, et puis en même temps une sorte d'instinct que leur culture est grande. Et on pourrait dire que ce que je viens de dire pourrait caractériser déjà Ibsen.
Et en un mot, pour terminer, Frédéric Toudoir sur la pierre, qu'est-ce que vous avez compris d'Ibsen quand vous êtes allé dans ce pays après avoir lu pour la première fois Ibsen ?
C'est vrai que j'avoue que quand je suis allée en Norvège, j'ai eu méchamment tendance, j'avais envie de vérifier que tout ce que j'avais écrit était vrai. Et quelle ne fut pas ma joie
de me rencontrer.
Oui, mais d'une certaine manière, il y avait quand même, voilà, ils nous font ce plaisir, voilà, d'être des reflets des images que nous en avons.
Holy, holy, holy.
Merci beaucoup, Frédéric Toudoir sur la pierre. Et à 15h54 sur France Culture, c'est le moment de retrouver notre séquence de lecture de poésie. Toute la semaine, Jacques Bonnafé vous propose une sélection de poèmes de Michel Bataillat, né en 1971, ancré dans le présent et dans le réel, auteur d'une poésie inattendue qui est son instrument de recherche et d'enquête, sa façon de déchiffrer le monde.
Ding ding ding, bonjour. Ding ding, avec le poète Michel Bataillat. Poésie possible, nous ne sommes pas que dans la nature, la rêverie près du chêne Saint-Jean. On est aussi plein centre. Extrait du poème Plein centre, observation participante. 1. Aspect du dispositif actuel de considération des gens qui passent. Des petits groupes de trois bien disposés, jeunes policiers au nombre de trois petits groupes de trois. Moi, je marche, je descends dans la station pour prendre le métro. Ils sont bien dans le passage. Ils sont donc 9 en tout ici, dans cette station divisée en 3 petits groupes, de 3 bien répartis à bonne distance, pas n'importe où, pas n'importe comment. À bien y regarder, ils forment une sorte de pince. Le groupe central en est logiquement le pivot, les deux groupes extrêmes en sont les mâchoires. En découvrant la pince à mon arrivée dans la station, je sens l'imminence perpétuelle de son possible resserrement. Tout le monde passe devant, tout le monde passe dedans. La station est bondée. Il est près de midi. Il y a beaucoup de monde qui voit ce que je vois. Il y a beaucoup de monde qui comprend ce que je comprends. Pris par les trois du milieu de la station, ceux du pivot de la pince, se trouve un autre homme noir. D'abord pris par les trois jeunes flics postés le plus près de l'entrée de la station, un jeune homme noir reprend son chemin. Immédiatement remplacé par cet autre qui marchait juste devant moi. Tandis que je sors mon ticket de ma poche, j'assiste au fonctionnement d'un dispositif d'interpellation des hommes noirs. Désormais, ils n'osent n'arrêter que les noirs. Ils le font devant tout le monde. Ils le font devant nous tous. Ils montrent, et dans le temps, ils exigent que nous l'acceptions, la politique à l'œuvre en France aujourd'hui. Voici comment fonctionna sous mes yeux le dispositif. L'un des jeunes flics lance en direction de l'homme noir qui passe devant lui un bonjour impérieux. L'homme noir comprend ce qu'il est censé faire, mais passe sans répondre. Il fait mine de ne pas être concerné par ce salut. Je vois qu'il comprend, mais qu'il décide de passer, comme je l'aurais sans doute fait à sa place, incapable, comme lui, d'accepter que ce genre de salut puisse m'être adressé. Alors il passe. Le jeune flic insiste, réitère en durcissant encore le ton de son salut, en accentuant le mépris qu'il charrie. Il a mon âge, il sait ce qu'il fait, il a appris à le faire. Bonjour. L'homme n'a plus le choix. Les 8 autres jeunes flics ont tourné leur regard vers lui. La pince s'est tendue. L'homme ne peut rien faire. Il s'arrête, demandant tout de même pourquoi cette interpellation, expliquant qu'il se rend à un rendez-vous important, qu'il est pressé. Un des hommes du dispositif lui répond qu'il doit présenter ses papiers avec dans la voix ce cynique ton d'évidence qui laisse entendre que tout affairé soit-il, l'homme n'en est pas moins noir. Papier. Comme s'il pouvait en être autrement. Comme s'il se pouvait que les hommes du dispositif disent simplement « bonjour » à un homme noir, adressent même la parole à cet homme. Comme s'il se pouvait qu'il lui adresse la parole pour autre chose que pour lui demander ses papiers. Ainsi prononcé « bonjour » signifie « vous ne devriez pas être ici, vous n'êtes pas ici ». Ce « bonjour » excède la question des papiers, il a l'haleine infâme.
Vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Jacques Bonnafé lisait Michel Bataillat dans La Compagnie des Auteurs, point d'orgue d'une émission consacrée à Ibsen, et à l'imaginaire nordique avec Frédéric Toudoir sur la pierre, auteur de l'imaginaire nordique aux éditions L'Improviste, mais également de différents essais comme un livre intitulé « Oui, non » pour sortir de la négativité et assumer la sensualité du « oui ». Et oui, cette émission peut être réécoutée en podcast, tout comme vous pouvez nous rejoindre via Twitter. En attendant demain et la suite de notre série consacrée à Henrik Ibsen, nous parlerons du drame des femmes. Ce sera avec Sylvia Nagasinski et Jeanne Sautière. Cette émission était réalisée par Hervé Marchand. À la console, il y avait Alain Joubert. Merci à Pascaline Bonnet, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Sophie de Lombarès pour la préparation. Dans un instant, les révolutions médicales, René Friedman.